bienvenue dans Reste une pellicule, le podcast des timeslips qui réanime les films qui se sont fait démolir, soit en raison de leur échec commercial, soit en raison d'un accueil public catastrophique. Le temps d'un épisode, on les exhume de leur crypte, on leur remet le courant et on décide ou non de les sauver. Et vous avez vu le titre, aujourd'hui, le film qu'on réanime, c'est Les aventures de Philibert, capitaine Puceau. Pour en parler, moi, c'est Manon et un petit tour de table des gens réunis aujourd'hui. Il n'écrit pas en vers, mais aime beaucoup quand on lui en offre. Ce soir avec nous, c'est Grégoire.
Pourquoi ?
Il a fallu que ce soit toi.
Bonjour, bah oui, forcément.
Grégoire, Philibert, en un mot, ça t'évoque quoi ?
Fromage.
Il se demande encore où est le fromage, parce qu'il adore faire des fondus. Pour nous, ce soir, ce sera Galien.
Salut.
Galien, Philibert, en un mot ?
Collant.
Il nous rabâche qu'elles sont jolies, les filles de son pays. Avec nous, ce soir, c'est Érico Macias. Éric, Philibert, en un mot.
Groin.
Le pape lui avait dit que l'acte d'amour sans être marié est un péché. Mais lui, Puceau, demande à ses potes s'il est Puceau, c'est Cortès.
Salut tout le monde.
Cortès, Philibert, en un mot.
Bourse.
Et sinon, vous les gens, c'est quoi votre rapport avec ce film, Grégoire ?
Alors, moi, ça fait plusieurs années que tu me tannes pour que je le voie, et je l'avais toujours pas maté parce que la flemme est très forte en moi, et du coup, je l'ai découvert pour le podcast.
Très bien. Cortès ?
Mes parents l'avaient téléchargé à cette grande époque quand j'étais petit, du coup, on l'avait découvert, et on l'avait bien aimé, je l'ai jamais revu depuis, donc petit film d'enfance oublié en vrai.
Eric ?
Moi, je l'ai vu quand il est sorti en salle, et j'ai beaucoup aimé quand il est sorti en salle, et je l'ai revu après, il y a de ça 2 mois, et mon avis a pas mal changé, mais on en parlera un peu plus tard.
Galien ?
Et moi, c'est des gens de la troupe qui m'en ont parlé l'an dernier. On m'a donné le nom du film, j'ai commencé à tirer la gueule. J'ai vu la boîte du DVD, j'ai encore plus tiré la gueule. Après, j'ai vu le film et vraiment, j'étais enchanté.
Et moi, de mon côté, c'est un film d'enfant. Je l'ai vu en salle quand j'avais 8 ans. Allez, le coup de vieux pour tout le monde.
Non, alors surtout, c'est un vrai problème de l'avoir vu à 8 ans.
Oui. J'ai eu une enfance très compliquée. Big up, Marie. mais du coup, Philibert, pourquoi est-ce que ça s'est crashé ? On va mettre un petit peu de contexte à tout ça. Déjà, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une comédie française sortie en 2011, réalisée par Sylvain Fuset. Qui est Sylvain Fuset ? On ne sait pas, même Wikipédia ne sait pas d'ailleurs.
En tout cas, sa carrière n'a pas décollé.
Oh.
J'allais sortir une connerie. il fallait.
Mais par contre, l'écriture de Jean-François Alain, c'est-à-dire le mec de OSS 117, nous laisse bien penser qu'il s'agit d'une comédie absurde et parodique. Parodique d'un genre assez défini, puisqu'il s'agit des films de KPDP, un genre très exploité en France, avec des adaptations des Trois Mousquetaires de Dumas, genre environ 70 milliards d'adaptations, Le Cyrano de Rostand, ou encore Les Oraux et compagnie. Celui qui porte le collant, c'est Jérémy Régnier, mais il n'est pas seul, accompagné d'un casting francophone assez large et connu de tous. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que ça s'est crashé ? Eh bien, l'approche pastiche, c'est-à-dire le fait d'imiter le style d'un auteur à but honorifique ou parodique, doit être assez travaillée au niveau des codes, mais il semblerait que ça n'ait pas fait l'unanimité auprès des critiques, qui le trouvaient soit trop absurde, soit pas assez travaillé. Le contexte de sortie du film n'a également pas aidé, car oui, en 2011, des comédies grand public, comme L'Étuche ou encore Rien à déclarer, sortent et raflent toutes les mises. Pour comparer, Philibert n'a vendu que 78 000 entrées en France contre 1,5 million pour L'Étuche et 8 millions plus pour Danny Boone.
Oh la vache.
Bon, du coup, pour un budget à 7 millions d'euros de production, ça a pas trop marché, quoi. Donc, à l'époque, déjà, la sortie, elle s'est pas faite dans toutes les salles. C'était une sortie assez discrète et personne n'a vraiment entendu parler du film. Tellement personne n'en a entendu parler que le robot YouTube ne censure pas le film à l'heure actuelle et vous pouvez le voir totalement gratuitement.
Je tiens à préciser qu'à l'heure où on parle au cinéma, on a des pubs pour Les Tuches en Angleterre.
Ouais.
Voilà.
Film de 2011, et là, ça doit être le combien-tième ?
C'est le cinquième.
Cinquième.
Je crois que c'est le cinquième.
La saga française ultime, quoi.
Avec Qu'est-ce qu'on a fait au mois ?
Mais d'ailleurs, premier film français de ce podcast.
Oui.
En vrai.
C'est vrai.
Voilà.
On peut s'applaudir.
Bienvenue.
Cocorico.
Bravo, Cocorico.
Merci, sa mère.
Je suis pas assez
Mais bon, voilà, le film est qualifié comme lourd et mal rythmé, avec un petit 2 étoiles spectateurs sur Allociné, c'est pas beaucoup. Et on a également des critiques absolument formidables, comme en témoigne ce magazine Métro, qui sur Allociné a laissé cette phrase: une parodie ratée et horripilante, emmenée par un Jérémy Régnier qui en fait des tonnes avec son collant trop moulant. Fuyez. Bon, moi j'ai pas fui, j'ai regardé le film, hein. Ainsi, même les fans d'humour à la OSS 117 semblent être en désaccord face à ce film. Mais qu'en pense l'équipe de Reste une pellicule ? Alors, c'est pas tout ça, mais des collants, du groin et de bonnes galères, Philibert, c'est parti.
Et le film démarre en 1550 sur les côtes de Bretagne. Et nous retrouvons Philibert dans un village avec plein de petits canards. Et c'est tout mignon, c'est tout champêtre, c'est tout coloré. Qui est en train de réviser un petit peu ses petits pas de danse avec son prof Flaviol. Et il se fait moquer par des membres de sa famille, ses cousins, dans la grange. Et il décide donc de se battre avec lui. Donc non seulement on se rend compte que Philibert, il est beau gosse, il sait danser, il sait manier du bâton comme jamais. Après cette petite bagarre avec ses cousins pour montrer que c'est lui qui sait manier du bâton, on retrouve une petite rousse.
Rousse numéro 1.
Rousse numéro 1. Oserons dire meuf bonne numéro 1 du casting.
Alors moi j'ai lancé des compteurs là-dessus. Donc j'ai deux compteurs. Le premier arrive maintenant qui est le compteur de personnes qui veulent se taper Philibert.
Oui. Mais voilà, donc c'est une paysanne qui a l'air amourachée. Qu'est-ce que j'écris ? Elle tombe en pamoison pour rester.
Oh la vache.
Voilà, elle tombe en pamoison devant la beauté de Philibert et elle essaye de lui faire des avances.
En tout cas, en termes d'avance, c'est aussi la façon dont l'avance est faite, c'est-à-dire que la meuf minaude, littéralement en fait directement en fait, elle ouvre son corsage. Elle,
alors oui. Deuxième compteur que j'ai mis en place, compteur de meuf à poil.
Oui, c'est ça.
elle est pas complètement à poil. Elle ouvre juste son décolleté.
Alors, on voit un téton, pour moi, c'est une meuf à poil.
C'est vrai qu'on voit. Le film ne se censure pas à ce niveau-là.
C'est un film français.
Il a peur de rien.
Il ne se censure pas. On voit des gens à moitié à poil. Manon l'a vu à 8 ans. Tout est OK.
Cette blague va être très marrante.
Ça va être mi-podcast, mi-en-fait séance de psy sur ton enfance.
Sachez que j'ai appris ce que voulait dire le mot puceau grâce à ce film.
Après ce refus de galanterie, il est appelé pour veiller sur le lit de mort de son père, qui va passer sa vie à trépas. Et soudain, révélation.
Philibert, c'est la fin. Je dois te révéler un secret. Tu n'es pas fils de producteur d'artichaut.
C'est tellement triste.
C'est poignant.
L'extrait était un poil long, mais les poils.
Donc voilà, Philibert apprend que, en fait, l'homme avec qui il a grandi, la famille avec qui il a grandi, n'est pas sa vraie famille. Il est en fait comte.
Bérandour de Saint-Avoise.
Bérandour de Saint-Avoise. Vraiment, les noms, ça va être une galère pour
plus
moi.
Plus de particules, tu meurs.
Clairement. Donc, il apprend les origines de sa famille, que son père a été assassiné par un mystérieux assassin avec une tache en forme de rose sur le cou et que sa mère est morte en couche. Donc, beaucoup d'infos à digérer en si peu de temps.
Il est pas mystérieux l'assassin. Je crois que dès le début on a le nom.
Ah, on a le nom.
Ouais, le comte d'Artois, ouais, il est annoncé.
Ah oui, c'est le comte
d'Artois est annoncé dès le début.
C'est vrai. Donc il faut pour Philibert se reconstruire, mais surtout se venger de l'assassin de son père. Départ un peu froid.
Tout le monde est trop content de le voir partir. C'est fou, enfin vraiment.
Sauf les paysannes qui rêveraient de se faire détrousser par ce dernier.
Oh la vache. On est d'accord que ce film ne passe pas du tout le test de Bechdel.
Ah ça oui.
Bah non.
C'est un film parodique de KPDP.
Oui, c'est vrai.
Pourquoi je pose la question?
Je pense que voilà.
C'est quoi le test de Bechdel?
Le test de Bechdel, en gros, c'est une féministe qui s'appelle Bechdel, c'est son nom de famille, mais j'ai oublié son prénom. Et c'est une espèce d'analyse pour, c'est pas l'outil ultime, mais pour essayer de mesurer un peu si un film est un petit peu progressiste dans le traitement des personnages féminins. Et il y a quelques critères, j'en oublie peut-être un ou deux, mais genre, est-ce qu'il y a plusieurs personnages féminins? Est-ce que ces personnages féminins parlent entre eux? Et est-ce que ces personnages féminins parlent entre eux d'autre chose que d'un homme?
Et est-ce qu'ils sont nommés?
Est-ce qu'elles ont aussi des prénoms? Voilà. Donc, si ces critères sont réunis, ça veut pas dire pour autant que c'est un film méga féministe. Disons que ça permet aux doigts mouillés de se dire, bon, est-ce que les personnages féminins ont un minimum de présence dans le film ou pas?
Ouais, un minimum de personnalité. On a divergé. Et il décide de partir, messire de Saint-Avoise, part très loin se venger.
Messire de Saint-Avoise, part très loin se venger. L'assassin de son père, il s'en va pour chasser. Vivant, c'est son courage, grandiose est sa cause. Et tripé le vilain, bourguignon à la rose. Oyé, oyé.
Cette chanson, vous allez l'entendre pendant tout le film, puisque c'est effectivement la rengaine de Philibert, c'est même le thème principal du film. Chanson qui va évoluer, qui va se construire petit à petit au fur et à mesure des péripéties de notre ami Philibert.
Et donc, après le premier couplet de cette chanson, on voit Philibert débarquer à cheval dans une petite forêt assez sympathique et il entend un bruit de douleur et de détresse et il se retrouve avec Manu Payet qui est tombé et qui a bobo à la jambe. Et en fait non, c'est une embuscade de brigands, mon dieu. Donc on démarre le deuxième combat du film, qui est un combat d'épée entre le complice de Manu Payet et Philibert, et il le déboîte assez rapidement, donc le méchant part. Et du coup, on a Martin qui a un petit peu peur de se faire buter. Il se met à genoux devant lui, il lui propose de devenir son valet en échange de sa vie. Après un débat sur quel pantalon est le plus ridicule entre le sarouel de Martin et le collant de Philibert, donc il accepte que Martin devienne son valet et ainsi démarre une superbe bromance, potentiellement une des meilleures du cinéma français bien sûr. Et Philibert lui explique ses plans contre le comte d'Artois qu'on n'a toujours pas vu jusqu'ici. Et celui-ci nous est introduit la seconde d'après, qui est le comte d'Artois? Eh bien, c'est un Alexandre Astier tout de noir vêtu dans un château noir et des valets tout en noir. Autre trait de caractère, il n'aime pas les chansons et il le dit très clairement. C'est un peu marrant parce qu'il y a une chanson de tout le film et du coup, il aime pas.
Ce qui est très marrant aussi, c'est que Alexandre Astier joue un personnage qui dirige un royaume et qu'il est saoulé par ses valets et autres personnes en dessous de lui.
Donc voilà, il explique qu'il aime pas les chansons, sauf que les valets viennent de capturer un troubadour, troubadour que Astier va appeler faiseur de bruit. J'aime beaucoup, donc je vais garder ce terme.
Je propose qu'on renomme Cortés comme ça.
C'est tellement gratuit.
Mais pourquoi? Oui.
Bah parce qu'il fait de la musique.
Ah oui, d'accord. Oui, okay.
Parce que c'est notre troubadour à nous, voyons.
Bon, on sait qu'il parle fort, mais
finalement, c'est quoi?
C'était juste une attaque méchante.
Non, c'est pas si gratuit, c'est le troubadour de la troupe.
C'est juste parce qu'il fait du punk. Bon, c'est rien, quoi. Là.
Ouais, vas-y.
Enchaînons.
Donc, du coup, le faiseur de bruit est obligé de lui chanter la rengaine que nous avons entendue juste avant. Et pourquoi il va faire ça? Parce que ça va nous montrer l'avancement du plot, notamment le fait que Philibert est donc maintenant accompagné de Martin. Et il découvre que l'homme qu'il a tué il y a des années avait un fils, mon dieu, et que celui-ci part donc très loin se venger. Il demande à ses valets d'aller le trouver, et pendant ce temps-là, changement de plan, on retourne en forêt. Martin et Philibert mangent un cochon entier, tout droit sorti de la boutique de Barbie, vraiment.
C'est vraiment le cochon en plastique qui a l'air absolument pareil, mais de façon volontaire, en fait.
C'est ça, c'est les accessoiristes du Astérix, mais le premier film.
On notera par ailleurs que ce cochon n'est pas un simple cochon, mais du groin, puisque ça va être mentionné 12 502 fois dans le film. Donc ça papote un petit peu, et naturellement, la phrase « il me faut me reconstruire » est de nouveau prononcée, un bon running gag du film. Et pendant cette discussion, Martin précise qu'il est un petit peu magicien sur les bords, qu'il a des petites poudres. Philibert se fout un peu de sa gueule. Et là, on a un plan dramatique sur le visage de Manu Payet qui explique à Philibert qu'il faut peut-être se méfier de lui.
Fondu en noir et réveil de ce bon vieux Philibert qui se réveille complètement nu. Donc il se retrouve donc seul, perdu, à poil. Et heureusement, deux jeunes fermières passent par là et viennent vers lui pour essayer de le baiser. Plus deux au compteur. Bref, lui, tant que chaste personne, veut garder sa chasteté, du coup.
Oui, c'est vrai, parce qu'on voit vraiment qu'il croit beaucoup en Dieu avant de partir pour se venger, donc il veut garder sa virginité.
J'ai appris qu'on appelle ça des PAM, pour pas avant le mariage. Je rencontrais un jeune homme il y a pas très longtemps qui est un PAM au premier degré, etc. Enfin, curieusement, il est également fan de Benalla, tu vois. Je sais pas à quel point c'est lié.
On va enchaîner,
enchaîner.
Et du coup, donc, les deux jeunes fermières, donc, essayent de le pécho, viennent se frotter littéralement contre lui, et donc lui qui veut garder sa pureté se recule, se retrouve contre un arbre, trouve une branche, il se dit cool, je vais pouvoir l'utiliser pour me défendre, donc il essaye de les frapper avec, ce qui n'a pas l'air de plus les choquer que ça, au contraire, elles ont l'air très très motivées par l'idée au début.
Ah ouais, elles sont très kinky, c'est vrai.
Oui, elles sont, oh oui, vas-y, tape, oh putain.
Oui, voilà. Bon alors, si elles étaient vraiment kinky, elles auraient bien aimé le coup de branche. Hein.
Oui, alors
il
voilà,
frappe pas si fort que ça.
Comment il se met à... Manon. Tout va bien.
Elle a vu ce film à 8 ans.
Elle a vu ce film à 8 ans. Elle a
alors,
vu ce
je film remplace 8... Léa aujourd'hui pour le podcast.
Donc, il donne des gigagous de branches, ce qui les fait fuir. Et grâce à ça, il est un peu fier de son succès. Il se met à genoux et c'est le moment précis que choisit une colombe pour passer et pour se poser sur un épouvantail. Avec une tenue d'épouvantail de base. On retrouve donc notre bon Philibert qui drippe à balles avec sa tenue d'épouvantail et qui continue son voyage quand il tombe sur un combat de deux épéistes. On reconnaît de suite celui contre qui et lequel il s'était battu avant de rencontrer Manu Payet et un autre épéiste qu'on ne connaît pas, tout vêtu de bleu. On notera également que Martin arrive par derrière pour donner des bons gros coups de branche à l'épéiste bleu. Et donc Philibert, armé d'une fourche en bois, décide d'attaquer les brigands. Donc il se bat un peu contre Martin. Et Martin le prévient que le brigand arrive par derrière. Et donc grâce à ça, Philibert assomme l'autre brigand et dit « Mais Martin, pourquoi m'as-tu défendu ?» Et donc en fait, une discussion se lance entre Philibert et Martin.
C'est comme ça que se réconcilient les bros. D'abord, on se fout sur la gueule, puis ensuite on se fait un gros câlin.
Martin a l'air d'être ok pour devenir son compagnon, son valet à nouveau. Mais là, pour de bon. Et eux, du coup, ils vont aller voir qui est le pays bleu, du coup, qui est tombé au sol. Et en allant réveiller cette personne, ils découvrent que « Oh, mon Dieu, c'est une femme !» Ce reste le love interest du film.
Waouh !
Incroyable. Et on va vous répondre que oui, parce que c'est la seule femme nommée du film. Inès.
Inès, Lucie, Hob, Félicité, Sofiane de Basbourg de la Tour en Pandois.
Merci
Galien.
Si vous
parlez d'Inès, vous devez dire tout le nom complet, sinon vous êtes éliminé du podcast.
Et donc, il propose à Inès d'être son hôte pour la nuit, pour pas qu'elle dorme seule dans la forêt, sans protection. Donc, il faut rencontrer un feu de camp. Martin cuisine encore son superbe groin. Et pendant le repas, Philibert et Inès se rapprochent en discutant. On découvre qu'elle est comtesse.
Ce date Tinder se passe plutôt bien, hein, globalement.
Franchement, ouais.
Et on apprend que du coup, c'est parce qu'elle a perdu autant de frères que Inès a été élevée comme un garçon, et c'est pour ça qu'elle est très chevalier.
Chevaleresque,
merci. On découvre également que le père d'Inès se meurt, il est vieux, et que c'est exactement pour cette raison que Inès est dans la forêt, c'est parce qu'elle était envoyée chez le notaire, mais qu'elle est du coup un peu triste parce qu'elle va bientôt perdre son père. En bon gentleman, Philibert lui propose de la meilleure pièce du groin, qui est évidemment le croupion, qui ressemble vraiment à un très gros anus. C'est dégueulasse. La nuit se passe, et en partant, elle lui fait un gros au revoir à l'ancienne, lui proposant de venir un jour à Nevers rencontrer son père. Martin va donc voir Philibert et lui faire remarquer très subtilement que peut-être que Philibert a le béguin pour elle. Et Martin de lui montrer qu'il avait gardé la broche, et donc ils vont devoir se revoir. Pour le remercier, Philibert lui fait un bisou. Un bisou, c'est super simple. D'abord, il faut porter, votre compagnon et vous, un magnifique collant moulant. Ensuite, mettez-vous face à face, et pour terminer, rapprochez-vous l'un de l'autre en mettant vos bassins en avant. Un bisou.
D'un coup, bam, on passe sur un mec qui gueule devant l'écran. Je vous dépeins un peu la scène. On est dans ce cachot, on a ce mec qui se fait torturer visiblement. En fait, pas du tout. Il y a juste le bourreau qui est à côté de lui et qui est en train d'expliquer à Astier quelle nouvelle torture il a imaginée. Et du coup, à chaque fois qu'il prononce une phrase en disant « Et là, je vais découper de là et à là », bah, le mec se met à hurler en disant « Non, non, putain, pas ça !» Ouais, il y a tout un moment où il dit « Donc là, en général, j'écorche de là à de là. » Mais en général, les gens, ils avouent ici. Ça hyper drôle, le mec est genre trop content de son boulot, tu vois. Du coup, Astier a pas l'air trop content.
Il est blasé, il a vu tous ces trucs de cette technique de torture là, et là il a envie de nouveau de fraîcheur.
C'est ça, il dit que la torture c'est là pas que pour marquer les corps, mais aussi pour instaurer la peur chez la population. Voilà, au cas où c'était pas clair, c'est le méchant. Dans la scène suivante, on va voir un de ces SS. Donc c'est ces espèces de personnages qui sont son espèce de garde rapproché. Ils sont tout en noir, masqués, et donc du coup on a un de ces SS qui se ramène dans la salle de torture et qui amène devant Astier un mec. Il se trouve que c'est l'ancien compagnon de Martin qui va leur révéler au fait la position de Philibert. Et on retourne ensuite sur Philibert et Martin qui sont maintenant dans une auberge en train de prendre un repas. Donc Philibert va commander une chambre à l'aubergiste qui va lui proposer assez directement de dormir dans sa chambre à elle. Donc
tu peux alors plus compteur. Un au compteur voilà. Des meufs qui veulent se taper Philibert.
Oui, c'est la servante de l'auberge en fait.
Voilà. C'est ça. Derrière eux, écoute, en cachette, un des membres de l'escadron noir d'Astier. À ce moment-là, justement, Philibert donne la suite de son plan, qui est
pas de chance.
D'aller buter Astier, du coup.
Le comte d'Artois, parce que ça va
le
faire
comte
trop
d'Artois,
bizarre.
Le comte d'Artois,
ça va faire trop bizarre.
Le hate count de Astier, c'est
ce garde rapporte donc la nouvelle au comte d'Artois. On change de plan, on est au château. Bien heureux d'apprendre cette nouvelle, pendant que, du coup, le garde continue de se gratter nerveusement sous son masque. Et là, qu'est-ce qu'il a, celui-là, à se gratter, putain.
Bah, c'est très Kaamelott, ça,
ouais.
Pour le coup.
Du coup, le garde va lui expliquer qu'en fait, il fait une allergie au cuir de son masque. Il va même jusqu'à enlever son masque.
Chose qui est interdite.
Mais qu'est-ce qui te prend d'enlever ton masque? Remets-le immédiatement. C'est une ligne. Vous êtes en noir. Tout est en noir ici. Le noir, c'est digne. Le noir, c'est sombre. Le noir, ça fait peur.
Le noir, ça fout là.
Drouille.
Pour la peine, il l'envoie donc aux galères. Les autres SS expliquent donc à Astier que Philibert cherche Astier pour le tuer. Et là, il va répondre « Il me cherche, mes quatre tontons pour leur donner l'adresse. On retourne donc sur Philibert et Martin qui sont cette fois-ci dans leur chambre d'auberge. Quelqu'un va toquer à la porte. C'est la serveuse de l'auberge de tout à l'heure qui vient lui apporter une lettre, celle qu'a envoyée Astier. Elle lui porte la lettre et à ce moment-là, oups, son corsage se défait.
Plus un au compteur de meuf à poil.
Lui, il s'en rend même pas compte. De toute façon, il a la lettre dans les mains. Il se retourne vers Martin et il lui lit la lettre. Dans la lettre, il y a l'adresse du comte d'Artois.
Et donc on arrive au lendemain, Philibert et Martin connaissent maintenant l'adresse du comte d'Artois, qui est donc grâce à la lettre au château de Charmerande, j'ai noté.
Waouh.
Et donc à cheval, ils arrivent au château, cataclope, ils s'introduisent dans le château discrètement, puisqu'ils sont dans le repère du méchant, quand d'un seul coup, ils entendent des ronflements. Et ils entrent dans la pièce principale du château, où ils trouvent un homme. Un vieil homme, un très vieil homme en réalité, qui est en train de dormir sur son fauteuil près de la cheminée. Et donc là, Philibert l'interpelle, comte d'Artois, puis il l'interpelle plus fort, comte d'Artois, le mec dort toujours, et il finit par hurler, comte d'Artois, et là enfin, le vieil homme se réveille enfin, il fait, oui. Et vraiment, c'est le mec super vieux, avec la main qui tremble de vieillesse.
Ah bah, il sucre les fraises. Hein.
Exactement. Et donc là, Philibert se présente, je suis Philibert, il y a 20 ans, vous avez assassiné mon père, j'exige réparation, et là, il dégaine son épée. Le vieil homme, en le voyant faire, commence à enfin un peu, tout petit peu se réveiller. Il tousse, et il dit, une seconde, je vous prie, et là, super difficilement, il se lève de son fauteuil. Il va récupérer son épée qui était posée à côté de lui, il va lever son épée en disant, en garde. Et en fait, il fait un pas et il s'embroche littéralement sur l'épée de Philibert.
Dans et donc,
et c'est la fin du combat.
Donc, ouais, c'est
combat
c'est...
dantesque.
Voilà, exactement. Ah, oui. Le mec a fait un pas, il s'est fait embrocher et c'est la fin du combat. Et donc Philibert dit ah. J'ai vengé mon père, j'ai vengé le meurtrier de mon père, et donc il est tellement heureux qu'il tombe à genoux. Il commence par parler à son père en disant ah père, je vous ai vengé. Ensuite merci Seigneur, merci mon Dieu, grâce à vous j'ai écouté votre voix et j'ai pu me venger de mon père, etc.
Vraiment,
tout va bien.
C'est l'une des rares scènes où Philibert m'a fait un peu flipper, je cache pas. Enfin, vraiment, il a l'air vraiment d'être à posséder.
Ah non mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, il a une ferveur quasiment religieuse au point que la scène volontairement en fait dure un peu en longueur.
Ouais ça c'est bien fait.
Et t'as Martin qui est à côté, oui. En fait, qui dit c'est tellement long. Et Martin, au bout d'un moment, lui dit on y va.
On peut y aller en fait.
Sauf qu'à ce moment-là, qui arrive dans cette salle? Inès arrive dans une superbe robe rouge. Les costumes sont absolument magnifiques, c'est en particulier les robes d'Inès.
Ouais.
Et donc au début, elle est étonnée de tomber sur Philibert, et Philibert est étonné de voir Inès qui débarque. Et ils sont tous les deux ah vous ici. Mais simplement, bah Inès arrive, elle découvre le vieil homme qui est donc mort par terre et dit quoi mon Dieu mais mon père est mort.
Est-ce qu'on peut préciser que le cadavre cligne des yeux?
Oui, je l'avais mis.
Pire cadavre du cinéma, du coup.
comme c'est un pastiche, c'est comme les scènes volontairement.
C'est trop gros.
Oui,
c'est
trop gros.
Il y a vraiment un moment où t'as un gros plan sur son visage et genre il a les yeux ouverts et il cligne des yeux.
Oui, c'est ça. Mais bon, donc, dans l'histoire, en tout cas, il est mort. Et il y a Inès qui dit, ah, mais que s'est-il passé? Ah, mon père est mort! Monstre! Assassin! Et donc, elle en veut forcément à Philibert de l'avoir tué. Elle récupère l'épée de son père et elle va donner un coup d'épée à Philibert en lui faisant une petite entaille au visage. Et là, Philibert s'explique, il dit « Madame, votre père a assassiné le mien. Je devais me venger. Votre père était coupable et d'ailleurs, je peux le prouver parce qu'il a un tatouage en forme de rose dans son cou comme le meurtrier de mon père. » Et donc là, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va déshabiller le haut du torse du cadavre pour pouvoir montrer le tatouage en forme de rose. Sauf que en fait, il n'y a pas de tatouage. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le comte d'Artois.
Mais pourtant, quand il lui a dit le comte d'Artois, il a répondu oui.
Oui, et donc Inès explique, bah en fait, c'était mon père, il était vieux, il était sourd comme un pot. Quand on lui a parlé en disant vous êtes comte d'Artois en le menaçant, le mec a juste répondu oui pour se faire tuer immédiatement. Et donc là, Philibert comprend qu'il a été trompé, la lettre était mensongère. Et là, d'un seul coup, qui débarque? En fait, c'est Alexandre Astier, alias Clotindre, le comte d'Artois, qui arrive avec ses cartes et qui dit « Oh, mon Dieu, mon pauvre cousin a été tué par un assassin. » Et Philibert dit « Non, c'est vous qui m'avez menti et c'est vous le vrai meurtrier de mon père. » Et à ce moment-là, Philibert, avec son épée, réussit à faire sauter le col d'Alexandre Astier. Et là, on voit la tache en forme de rose dans son col. Allez. Et donc, Alexandre Astier envoie directement tous ses gardes pour enfermer Philibert, qui se retrouve accusé d'avoir assassiné volontairement le père d'Inès.
Tous les gardes, sauf un, derrière lequel il se cache.
Oui,
c'est vraiment vrai. C'est le couloir parfait, quoi.
Mmh. Exactement. Et donc c'est une nouvelle scène d'épée qui est super bien foutue entre Philibert qui se bat avec une bonne douzaine de gardes. Simplement au bout d'un moment les gardes sont trop nombreux, donc Philibert est acculé en haut d'un escalier et là comme dans beaucoup de films de cabaret d'épée, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit. En haut d'escalier, il va s'accrocher à un lustre. Depuis le lustre, il se balance jusqu'à une fenêtre et il saute par la fenêtre en laissant du coup Inès et Martin avec le comte d'Artois et les gardes. Alexandre Astier commence par parler à Martin et lui annonce qu'il va l'envoyer aux galères.
On s'ensuit donc à un changement de décor, de temporalité, tout ça. On est un petit peu plus tard et Inès est enfermée dans sa grande tour, telle la princesse qu'elle est, et Astier lui rend une petite visite. Elle n'est pas ravie de sa situation d'enfermement et de captive, mais elle a un petit espoir puisqu'elle allait changer le testament de son père plus tôt dans le film quand elle a rencontré Philibert justement. Sauf que, tintintin, en fait Astier était méchant et lui aussi avait changé le testament du père d'Inès. Non seulement il va récupérer toute la fortune de son pauvre cousin décédé, mais également dans 40 jours il va épouser Inès parce que...
Pour être précis, il doit épouser Inès pour pouvoir récupérer
la dot. Effectivement. Donc voilà, de nouveau, elle n'est pas ravie parce que c'est un assassin, doublé d'un traître. Mais bientôt son bam, rechangement de plan sur Philibert qui donc s'était échappé tout à l'heure et qui cette fois-ci est en train d'escalader la tour dans laquelle Inès se trouve prisonnière. Et
de nuit. Cette scène est de nuit d'ailleurs.
De nuit, et donc à l'image des premiers niveaux d'Ocarina of Time, il doit monter sans se faire repérer par les gardes qui font des tours très très réguliers. Philibert continue de monter et finit par atteindre les fenêtres, enfin la fenêtre d'Inès. Elle voit pas, mais fort heureusement, après plusieurs cris et imitation de groin grâce à un instrument genre un sifflet mais pour faire un bruit de cochon, genre
c'est un appo à cochon,
un appo à groin. Ouais. Wow, mais je connaissais pas le mot.
Un appo, c'est l'instrument pour imiter tel animal.
Donc du coup, maintenant que Inès l'a enfin vu, elle est trop contente, oh mon dieu Philibert, donc il lui explique ce qui s'est réellement passé, sauf que elle sait déjà et elle l'engueule d'ailleurs parce que bah effectivement expliquer le plan qu'on vient de lui expliquer 10 minutes avant, c'est un peu inutile. Et enfin, après 5 minutes de drague à la fenêtre, ils se font enfin un bisou le plus long du cinéma puisque bah effectivement, c'est pas très simple d'embrasser quelqu'un avec des barreaux aux fenêtres quand t'es accroché à une tour, mais on a un très très beau plan sur le boule de Jérémy et c'est très sympathique.
Mais ils ont tellement galéré qu'il y a même les marques des barreaux sur le visage de...
Ça, c'est très drôle aussi.
De Inès, et c'est génial.
Exactement.
Qu'on passe ensuite sur une scène dans la galère, où on voit Martin en train de ramer un galérien, en somme. Hein. Et là, on apprend qu'il y a un mec qui arrive en tant que volontaire dans la galère, genre, hein, quoi? Et là, tout le monde se marre, du coup, bien sûr, et là, c'est Philibert qui arrive. Martin, dépité. Qu'est-ce qu'il fout là, ce gars?
Martin,
il est complètement con.
C'est vrai que il commence à en avoir un peu plein le cul, genre il aime bien Philibert, mais quand même c'est relou là.
Du coup voilà, Philibert prend place à côté de Martin, qui l'engueule en disant mais vous êtes complètement con messire, c'est pas possible. Il se fait ferrer, il est là mais je comprends pas, c'était pas le deal, je suis volontaire en fait, c'est bon. Bien sûr il est un peu con, il avait pas compris qu'on allait
Balek. En gros l'esclavagiste lui dit Balek.
La galère reprend la mer et Philibert va donc papoter avec Martin pendant qu'il rame, et là le mec derrière eux va entendre un peu la discussion. En fait, il s'agit du SS qui bossait pour Astier, qui s'est fait envoyer aux galères et donc qui est prêt à tout lui balancer sur un plateau d'argent, toutes les infos qu'il faut pour se venger d'Astier.
Et là, on apprend son prénom.
En fait,
qu'il va être un personnage.
Il a un vrai prénom, mais comme il a la gueule toute boursouflée à cause de son masque qu'il avait jusque-là, il explique non, en fait, c'est des comédons, messieurs. Et du coup, il l'appelle comédon à partir de là, c'est rigolo. Je comprends même pas comment une réaction. Réaction
si.
Allergique, ça fait des comédons.
Si tu gardes le truc en permanence.
La chaleur, si tu le gardes tout le temps avec la chaleur et tout, ça va.
J'ai pas compris, je sais pas ce que c'est qu'un comédon.
Un comédon, c'est un point noir. Du coup, il sera engagé ensuite dans l'équipe de Philibert aux côtés de Martin. Également, le mec qui est juste à côté, qui parle pas trop, qu'on va appeler le Turc. C'est un Turc, c'est tout.
Vous voyez le Turc dans Asterix Obélix, c'est lui.
Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est le même.
C'est le même.
On revient sur Astier, qui est un peu en train d'enquêter. Donc, il est là, ok, il est passé par là, il est tout prêt, on va essayer de le trouver, et là un de ses gardes lui dit pas la peine messire. Comment ça pas la peine? Il est amoureux. Oui. et du coup le mec va lui expliquer le concept d'être amoureux et que à cause de ça du coup Philibert et Inès vont vouloir se revoir et que du coup il suffirait d'attendre que Philibert revienne se pointer tout seul au château, et du coup il va sortir sa punchline incroyable.
D'accord, on ne bouge pas. On laisse venir le chat, mais
on déplace la souris. Puisqu'on a le fromage.
Retour à la galère, il fait nuit, l'équipage dort. Philibert, lui, cherche ses bourses dans son slip.
C'est bourses de monnaie, bien sûr.
C'est de, non, pas ces bourses de monnaie, c'est bourses de poudre de magie de Martin.
Ah oui, c'est vrai, en plus.
Qui les sort et qui dit, il est temps à Martin en disant, Martin, fais de la magie. Martin, mec, t'es con. Je t'ai assommé avec un bout de bois. Tout le monde l'avait compris, sauf toi. Et donc, Philibert fait, ok, deuxième plan. Il retourne chercher quelque chose dans son slip et en sort la broche de Inès. Et en la regardant, il se dit que il pourrait tout lui donner. Sa vie, son cœur, sa fleur. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend, d'abord Martin, puis le reste de l'équipage, que Philibert est puissant.
C'est un peu con quand même, parce que toi, spectateur, quand tu as téléchargé un film qui s'appelle Philibert, Captain Puceau, tu dis bon,
on s'en doutait un peu, quoi. Et puis, enfin, ça fait depuis le début du film qu'il y a des meufs qui essayent de lui sauter dessus et qui fait oh non, hein. Tout l'équipage se paye sa gueule, ça réveille même l'Argousin qui, du coup, se fout également de sa gueule. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'Argousin, c'est le mec qui fouette les galériens.
Je suis allé
chercher. Philibert, du coup, provoque un petit peu l'Argousin, histoire de le faire se rapprocher. Martin lui envoie sa poudre, Philibert récupère le fouet, tire, assomme l'Argousin. Finalement, la poudre a été utile. C'est pas de la magie, mais ça marche.
Et ça, c'est beau.
Grâce à ça, ils récupèrent les clés, ils enlèvent leur chaîne, et ils détachent à peu près tout l'équipage, qui l'encense, Captain Puceau. Et il annonce son plan en ASMR. Et oui, il faut pas se repérer, donc il chuchote.
C'est presque mignon.
Ah, moi, je trouve ça adorable. Oh, ils sont trop pipous. On découvre donc le plan de Philibert. Alors là, vous me connaissez, petit point stratégie, parce que le plan est complètement con. Ils attendent le petit matin que le capitaine arrive. Ils l'assomment, les mecs, ils faisaient nuit, il y avait 8 personnes sur le bateau, ils sont 30, ils auraient pu attaquer de nuit, merde. Les voilà libres, ils scandent à nouveau le nom de leur sauveur, le capitaine Puceau.
Quels sont vos ordres, capitaine? Ouvrez la grande nappe blanche, remontez les ficelles, et on va par là, sur la gauche, là.
Voilà, vous avez tous compris qu'il fallait sortir la grande voile et aller à bâbord.
Et souquer les artimuses.
Merci, j'y avais plus. Pendant ce temps-là, on voit vite fait Inès qui est déménagée dans une autre prison pendant que le comte d'Artois attend de pied ferme Philibert du haut de son grand château. Et petite ellipse d'environ 29 jours, la crinière de, ce qu'on va appeler ça une crinière maintenant, de Philibert a genre quadruplé de volume,
de taille,
il a une queue de rat dégueulasse, enfin c'est horrible. Il a une magnifique tenue rouge en collant évidemment.
Tenue Bordeaux, je précise.
Oui, c'est très Bordeaux. Le regard qui nous a lancé.
Je vous emmerde. Une carriole se déplace avec un coffre, c'est évidemment les hommes du comte d'Artois qui baladent la thune de la dot et récupèrent lors du convoi, et refoulent les gardes qui le gardaient avec un message qui renvoie à Artois, message disant retrouve-moi demain dès l'aube à l'entrée de la forêt pour faire un duel, le gagnant gardera l'or et l'honneur. De son côté, le comte d'Artois est en train de se faire préparer pour son mariage avec une fraise incroyablement grande. Il lit le papier qui le menace en duel et trouve ça nul. Mais Inès aime bien, donc il rage un peu et il annonce
« On enfume le terrier et on cueille le renard. Puisqu'on a le fromage. »
Donc, on retrouve Philibert avec Comédon, le Turc et
Martin.
Merci, souffleur.
Philibert se prépare à son duel contre Astier. Il va donc faire un dernier bisou d'au revoir, un bisou à trois avec Martin et Comédon. Je trouve cette scène magnifique.
Un pur moment de bromance.
C'est pour lier leur destin et ils seront liés coûte que couille.
Exact. Du coup, on passe à la scène suivante. Philibert, tout seul dans la forêt, attend que Astier arrive, seul, manque de peau. Il avait tous ses gardes avec lui. Oh là là, quel dommage. Du coup, il se fait prendre au piège, évidemment. Et là, Astier, il se rend compte, en fait, que dans le coffre, tout l'or a été volé par les potes de Philibert.
Philibert s'est encore fait trahir.
Oh là là. Du coup, on se retrouve juste après dans la scène suivante où Philibert se réveille accroché à une croix de Saint-André, tout nu. Enfin, quasiment tout nu, il a juste un petit pagne qui le couvre. Astier arrive dans la pièce et lui explique qu'il va le torturer pour savoir où est l'or, du coup, qui a été dérobé. Bon, manque de peau, Philibert en sait rien, mais il explique à quel point il est valeureux, qu'il va résister à la torture et tout. Et là, Astier dit, mais dis-moi, on entend des choses sur toi, il semblerait que tu sois puceau. Pourquoi t'es puceau,
lui?
Fustio, moi, sérieux, vraiment.
Vous me l'avez jamais dit. Demande à mes amis. Ah, et diront si je suis plus. Ah,
demande à toutes les nanas que à qui j'ai dit non. Si elles pensent que je suis plus.
Du coup, Astier fait un. Ah bah ça tombe bien. Il se trouve qu'Astier avait sous la main à ce moment-là une jeune fille qui s'appelle Pénélope, dont le père est emprisonné dans ses cachots depuis 15 ans. Et il lui dit, en échange de la libération de ton père, tu le dépucelles.
Nouveau point, meuf à poil. Mais je l'ai pas mis dans les points des meufs qui veulent se faire
Philibert. Oui, parce qu'elle veut pas se le taper du tout.
Elle
en fait,
pas franchement, elle a pas envie, hein, clairement.
Ouais. Très
c'est
bizarre,
c'est
cette scène.
C'est une torture pour les deux personnages et un peu le spectateur aussi, je trouve, perso. Mais
elle est bizarre, cette scène.
Elle est un peu cringe, ouais, clairement.
Et du coup, on voit Philibert, le visage tordu de douleur à mesure que Pénélope s'approche de lui. Et pendant ce temps, Astier s'en va. Et genre, littéralement, Astier franchit la porte de la pièce pour sortir. 3 secondes plus tard, il y a toute l'équipe de Philibert qui arrive. Et du coup, ils arrivent pour sauver Philibert de cette torture affreuse. Genre, c'est littéralement Martin qui arrive, qui chope le bras de Pénélope. Il l'éloigne de 30 centimètres. Genre, le truc le plus ridicule.
Oui, mais on noterait qu'à partir de là, Martin est le sauveur personnel de Pénélope.
Ouais, ils vont pas se lâcher la main de tout le film à partir de ce moment-là. Ouais. C'est un peu pipou.
Et Philibert demande à Martin si il est encore intact.
Et lui répondre « Oui, messire, mais vous êtes roide. » Philibert est donc maintenant libéré. Ils ont toujours le bourreau en otage.
Grâce au bourreau, ils apprennent qu'en réalité, Inès se trouve dans le couvent de la désolation. On passe dans le couvent où il y a Clotaire, autrement dit Astier, qui est en train de marcher dans le cloître avec le garde principal de son escadron noir. Et il se trouve que le garde a un cadeau pour lui.
Oui, c'est trop mignon.
C'est une toute petite tapisserie, pardon, qui est super mignonne, qui le représente, lui, Astier, avec Inès. Tous les deux, ils sont à cheval sur une licorne. J'ai vu, c'est pas un cheval, il y a une grande corne. Et il y a aussi des petits lapins roses. Et il y a écrit Clotaire et Inès, genre limite avec des cœurs. Et il y a le garde qui dit « Oh, mes hommes et moi, nous vous souhaitons beaucoup de bonheur, messire. » Et en fait, Astier, il le regarde « Mais t'es complètement con, en fait. »
C'est un mariage arrangé.
Exactement. Donc,
c'est un mariage quand même.
Donc ouais, voilà, là, c'est vraiment encore une scène pure Kaamelott avec juste Astier
qui fait la gueule, ouais.
Ouais, Astier qui fait la gueule en mode je suis chef et mes sous-fifres sont juste tous plus débiles les uns que les autres. Et donc le mariage entre Astier et Inès commence à se mettre en place. Inès et Astier arrivent du coup devant le prêtre qui est là pour les marier, et le prêtre est joué par Christophe Salengro. Salengro, c'est le président dans Groland. D'ailleurs, Groland, ça vient du nom Salengro, je sais pas si vous saviez.
Ah purée, tout est lié. OK, ça je savais pas trop.
Et le prêtre commence à faire le discours de mariage. Simplement à ce moment-là, bah il y a Philibert qui arrive avec tous ses potes dans le couvent. Il se bat avec les gardes pour essayer de rejoindre du coup Astier pour empêcher le mariage. Ça se bastonne. Il se rapproche de la porte dans laquelle il y a la paroisse et il y a la messe de mariage qui est débutée. Et juste au moment où le prêtre demande à Inès « Et est-ce que vous acceptez de prendre Alexandre Astier en mariage ?» D'un seul coup, Philibert arrive, il pète la fenêtre, il descend et il se fait assommer d'ailleurs par le prêtre immédiatement.
En ralenti d'ailleurs, parce que vraiment Philibert voit Dieu et vraiment Dieu l'assomme.
Il l'assomme avec une croix, il y a Jésus.
Heureusement, Philibert pourrait se faire tuer, mais il se trouve que ses potes réussissent juste à ce moment-là à péter la porte de la paroisse. Et donc au moment où les potes de Philibert arrivent dans la paroisse, Astier avec ses gardes va de nouveau capturer Inès et ils vont s'enfuir dans un carrosse pour aller en direction du château d'Artois. Et ils sont donc poursuivis par Philibert à cheval qui galope avec ses potes pour essayer de les rejoindre. Malheureusement, la porte du château se ferme juste au moment où Philibert arrive. Heureusement, grâce à Comédon, qui est donc l'ancien garde d'Artois, il existe un autre passage pour entrer dans le château. Ils arrivent dans les sous-sols du château d'Artois. Ils découvrent qu'il y a des dizaines de prisonniers qui ont été enfermés là depuis des dizaines d'années par Astier. Et là, de nouveau, Astier envoie ses gardes pour oxyre Philibert.
Et on notera que Pénélope est encore avec eux.
Oui, Pénélope fait partie de l'aventure avec le Turc, Comédon, Martin.
Voilà, c'est vraiment
elle a pas lâché la main de Martin depuis
le début.
C'est fini.
Et même à cheval.
Tout jamais.
Bah après, Martin lui a promis qu'on retrouvera son père, prisonnier.
Ouais.
Et donc, que fait Astier? Comme c'est un gros lâche, de nouveau, il va envoyer ses gardes pour demander à ses gardes noirs de se battre contre Philibert et sa troupe pour le sauver. Simplement, qu'est-ce qui va se passer? Comédon, qui est donc un ancien garde, va prendre à partie ses anciens collègues en disant « C'est un tyran! Qu'attendez-vous pour vivre vos vies et pour réaliser vos rêves? Toi,
Tu veux cultiver un lopin de terre depuis longtemps. Toi, je sais que tu rêves de retaper la chaumière de ton petit papa. Et toi, je sais que tu rêves de prendre des cours de chant. Et toi, je sais que tu rêves d'ouvrir ton échoppe de couture. Il est parti où, ton joli rêve? Et là, du coup, les gardes disent « Oui, c'est vrai, Alexandre Astier est un connard. »
Dans le film.
Et donc, tous les gardes décident finalement de laisser tomber Alexandre Astier. Et donc, tous les gardes, pour montrer qu'ils laissent tomber Alexandre Astier, vont abandonner leur masque et ils vont lâcher leurs épées. Et donc, Alexandre Astier enfin se retrouve acculé, c'est-à-dire qu'il est tout seul en face de Philibert et de toute la troupe. Et le duel enfin final entre Alexandre Astier et Philibert peut commencer.
C'est la confrontation finale. Ça y est, ça va être la vengeance de Philibert.
Finale, pardon.
Quoi?
La lutte, finale.
Ah putain, j'avais pas entendu, excuse-moi.
Ça sort ses épées. Le comte d'Artois, lui, galère un petit peu à sortir son épée. On sent qu'il est, il est rouillé ou alors il est pas habitué au combat à l'épée. Mais, évidemment, comme le personnage est fourbe, en fait, c'était une ruse pour prendre de surprise Philibert, mais en fait, il a l'air aussi à l'aise à l'épée que lui, donc l'enjeu est de taille, c'est-à-dire que là, pour une fois, Philibert a quand même un adversaire à sa hauteur. Ching, 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 en gros, c'est un peu le résumé du truc, c'est très très cool à regarder, c'est pas forcément facile à résumer, il y a beaucoup de blagues sur le fait que dès qu'on enlève la musique un peu épique et qu'il se balade un petit peu dans les couloirs, ça fait ching ching et c'est un peu,
c'est drôle.
C'est assez drôle. Enfin, vraiment, on prend les traits des films de KPDP et puis on les grossit. Ça fait tomber des décors, ça monte dans des escaliers, ça s'envoie des insultes telles que fourbe, félon, perfide, charognard,
canaille.
Et à la fin, il a...
Aïe.
C'est vrai qu'il dit aïe. Donc, en fait, beaucoup de blagues visuelles et sonores. Astier commence à perdre un petit peu pied. Il commence à être fatigué, acculé. Et finalement, il décide de prendre Inès en otage. Il manque de la poignarder, mais comme Philibert est évidemment trop fort dans ce film, ça c'est quand même, faut le dire, le mec est un peu cheaté. Il arrive quand même à sauver Inès, pas vraiment. Astier, la scène, c'est vraiment, le comte d'Artois balance Inès sur Philibert. Philibert esquive Inès. Oui. Il ne la rattrape pas. Il l'esquive. Puis ensuite, il tue le comte d'Artois. Le comte d'Artois meurt, Inès est sauvée, Martin a une go, bien joué à lui.
C'est vraiment pas le truc sur lequel j'aurais misé au début.
Ouais,
du
moi
film,
non plus,
hein,
mais
vraiment,
finalement il a Pénélope, et Pénélope a l'air assez amourachée de Martin, donc bien joué. Il y a juste le Turc, qui ne sait pas quoi faire, parce que maintenant qu'il est libre, qu'il a toute cette liberté, qu'est-ce qu'il va faire? Et ben finalement, on va l'envoyer aux galères. Et c'est la dernière phrase du film.
Il va pouvoir se reconstruire.
Il va pouvoir se reconstruire, mais bien sûr, tout le monde s'est remis dans le BTP, en fait, c'est vraiment ça le film.
Et surtout, on peut enfin dire au revoir au capitaine Puceau, puisque Inès a l'air d'avoir très très faim.
Tout à fait.
Effectivement. Et nous terminons le film avec la fameuse chanson « Messire de Saint-Avoise part très loin se venger ». Alors j'aime bien dans le générique, c'est en version moyenâgeuse et en version punk, chantée par Gaspard Proust.
Et version longue, bien sûr.
C'est ainsi,
Gaspard Proust qui chante.
C'est Gaspard Proust qui chante.
Oui.
Ouais, c'est, on reconnaît un petit peu sa voix, un petit peu de blasé là, comme ça. Et donc, voilà comment se terminent les aventures de Philibert, Capitaine Puceau.
Et voilà les gens, c'était les aventures de Philibert, Capitaine Puceau. Et maintenant, comme à chaque épisode, on va décider de si on sauve le film ou non. Et on va commencer par un débat ouvert. Eric, qu'est-ce que t'as pensé de ce film?
C'est compliqué. C'est un film que j'ai beaucoup aimé la première fois que j'ai vu et qui m'a beaucoup déçu la deuxième fois. En fait, c'est un film qui essaye de bien faire les choses. Les acteurs sont bons, les costumes sont super beaux. Il y a des blagues qui sont réussies. Moi, ce qui m'a beaucoup gêné, c'est que tu sens à quel point ils essayent de façon assez mécanique quand même de reprendre ce qui a fait succès d'OSS 117. En gros, on lui a demandé à Jérémy Régnier de faire du Jean Dujardin, et ça marche seulement à moitié. Et le problème aussi, c'est le positionnement. C'est-à-dire que au-delà du fait qu'ils jouent tous bien, le réalisateur déjà est pas terrible, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Mais c'est le positionnement, c'est-à-dire que c'est une parodie des films de KPDP que j'ai pas connu, et je pense que la plupart d'entre nous on les a pas connus. C'est-à-dire que les films de KPDP, ouais, généralement ils sont repris soit au premier degré pour faire en sorte que même si on n'y connaisse rien, ça fonctionne. Je pense que là l'été dernier, il y a eu Le Comte de Monte Cristo qui a eu un beau succès.
Mais ça nécessitait pas en fait d'avoir tous les codes des vieux films avec Jean Marais ou les trucs Fanfan à la tulipe ou Le Bossu ou des trucs comme ça, des films des années 50, 60. Personnellement, moi, c'est des références que j'ai pas. Fanfan à la tulipe,
c'est
Thierry
si
Lafronde, tout ça.
C'est ça, Fanfan à la tulipe.
Si.
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 Bon, alors, celui que j'ai vu, il est plus récent.
Ah oui,
peut-être.
Non, tu parles du remake qui a eu lieu
oui.
Dans les années 90, début 2000.
Ah, je savais pas que c'était un remake.
Ah,
ok,
oui,
my bad.
Si,
ouais. Moi, j'avais trouvé marrant.
Vraiment, c'est vieux.
Mais dans les années 90, déjà, il y avait, oui, il y avait même Le Bossu qui était refait avec.
Fabrice Lucchini et Daniel Auteuil.
Ouais, Daniel Auteuil.
Moi, je trouve excellent.
Qui était, ouais, mais en fait, ça nécessitait pas de connaître le film original qui était un film des années 50 ou 60.
Non, bien
sûr. J'ai absolument pas vu, quoi. Et là, le problème, c'est que autant dans SS 117, les Austin Powers, ça avait marché, tout le monde voit à peu près à quoi ressemblent les vieux James Bond des années 50-60. Mm-hmm. Donc, c'est des références que tout le monde avait au moment où SS 117 est sorti. Là, ce truc-là, comme t'as pas les références, c'est un peu comme, ouais, je sais pas, t'as un grand-oncle qui te fait des blagues sur des trucs que t'as pas connus. C'est un peu compliqué. Et au-delà de ça, moi, il y a aussi le côté, toutes les running jokes qui reviennent, où t'en as trop. T'as le groin, les blagues avec la salade de groin qui revient 6 fois de suite. T'as les meufs, bon déjà c'est très beau, c'est très gênant, qui à chaque fois se mettent à poil parce qu'elles veulent se taper Philibert, et c'est super répétitif, et c'est le côté en fait trop mécanique des blagues, où tu sens que c'est des auteurs entre autres de Groland, et où des trucs qui fonctionnent bien sur un épisode de Groland qui dure 2 minutes, ça va, mais sur un film d'1h30, 1h40, franchement c'est compliqué.
Je te rejoins sur pas mal de points où quand on remet le film dans son contexte, tu sens qu'effectivement il y a une tentative de surfer sur le succès de OSS 117. À ce niveau-là, je trouve que le film marche pas. Si on le met dans ce prisme-là, je trouve qu'il marche pas parce que déjà OSS 117 finalement est plus profond que juste être un simple pastiche parce qu'il y a quand même des gros tacles sur la France, sur l'antisémitisme dans le pays. Voilà, il y a plein de blagues qui sont maintenant devenues des mèmes, alors que Philibert finalement au niveau des blagues est très premier degré. Il est très dans le pastiche, la théâtralité. Pour moi, il a la même profondeur au niveau des blagues que la parodie de Thierry Lafronde.
Oui, Thierry Lafronde.
Alors c'est quoi, c'était Les Inconnus ou
c'est Les Inconnus.
C'était Les Inconnus.
Thierry Lafronde.
Ouais, voilà. Et ils avaient et il y avait aussi le conte de Partadet ou je sais plus quoi, où je confonds avec un autre truc. Thierry Lafronde. Et en fait, si vous aimez, par contre, le sketch de Thierry Lafronde, donc, c'est ça?
Je pense que tout le monde n'a pas la référence, mais ouais.
Voilà. Mais si vous connaissez ce sketch et que vous l'aimez bien, ou Les Liaisons Dangereuses, Vlata Mouche Merteuil, je pense que le film va vous plaire. Mais vous attendez pas à la profondeur d'un OSS 117. Par contre, au niveau du visuel, je trouve que les couleurs sont chamarrées, les costumes sont vraiment cool, les décors sont plutôt bien. Alors après, ils ont triché en regardant le générique. Tu vois qu'ils sont allés en République tchèque parce que la location de tournage est vachement moins chère. Les Trois Mousquetaires, là, en deux parties, qui ont été réalisées il y a pas longtemps, ont fait la même chose. On fait ça depuis des années. Ça, c'est un peu relou quand même, parce que on a des beaux paysages, on a des très beaux biomes en France. Ce serait quand même cool de les voir aussi. Et puis, les scènes de combat. En vrai, ça fait quand même plaisir d'avoir juste une caméra, une action et très peu de cuts.
Ouais.
Vraiment, on sent que les acteurs, ils se sont entraînés, ils ont appris l'escrime, à sauter, à faire leur cascade. Et ça, vraiment, ça fait plaisir de voir un bon film d'aventure. C'est quand même un bon film d'aventure. Très simple, un peu, avec un peu de maladresse au niveau de l'écriture. Mais moi, j'étais à fond dedans. Et ça fait plaisir visuellement à regarder.
Bah c'est là le point que j'ai en fait, c'est que ce film, il y a des moments je savais plus s'il voulait être pastiche ou s'il voulait être film d'aventure. Et c'est le fait qu'il n'arrive pas à se positionner là-dessus qui fait que bah, en fait tu sais plus ce que tu dois regarder. Tu sais plus si c'est un pastiche qui se prend trop au sérieux ou si c'est un film d'aventure qui s'est un peu foiré.
Genre... Alors ben pour le coup, pour te répondre, je suis pas d'accord dans l'idée. C'est pas parce que tu parodies quelque chose que tu dois pas respecter le genre. Et dans l'idée. C'est un genre qui se prête à l'aventure, donc bah il vit une aventure et donc c'est un film d'aventure.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'on m'aurait pas dit dès le début que c'était un pastiche, je m'en serais peut-être pas rendu compte.
Arrête.
Façon de jouer.
Non mais Greg.
Dans la façon de jouer. Non, je suis désolé. Enfin, il y a vraiment des moments où ça, encore une fois, c'est il y a certains trucs où ils respectent. Enfin, ils se prennent tellement au sérieux dans le truc. Alors c'est peut-être moi qui le capte pas. Hein. Il y a vraiment des moments où il y en a peu, je te l'accorde, mais il y a vraiment des moments où je te dis, mais attends, on en est où dans le truc, quoi?
Non, mais dès le début du film, tu n'es pas fils de cultiveur, d'artichaut, machin, là. Enfin,
j'ai vu beaucoup de films de merde. Il y a peut-être ce point-là.
Mais pour épauler un peu son truc, alors ce n'est pas du tout un film de merde, mais moi j'avais eu cette confusion-là avec Princess Bride. qui est un petit peu dans la même veine, KPDP, aventure. Et c'est vrai que Princess Bride a des côtés très premier degré. Donc du coup, tu sais plus trop si tu dois rire tout le temps ou si tu dois être très investi, en fait.
Et je pense que ça vient aussi du fait que, bah, comme l'a dit Eric, bah, plus personne n'a de référence de film de KPDP.
Sauf moi,
dans,
et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup
en tout cas, ouais.
Bah, je sais pas, moi, c'est vrai que j'ai vu Fanfan la Tulipe, le remake, ouais. Mais je l'ai vu il y a genre 15 ans, j'en ai franchement aucun souvenir, à part une scène dans le foin qui était un peu chelou parce que j'étais un peu jeune. Toujours Manon, 8 ans, tout ça. mais en fait, enfin, en fait, vu qu'il n'y a aucun truc du, aucun code du KPDP, bah, en fait, je sais plus si c'est du pastiche ou si c'est du réel, parce que je connais pas les codes, quoi.
C'est peut-être là où c'est dommage que le coche soit un peu loupé avec ce film, c'est que pour ceux qui n'ont jamais vu des films de KPDP, ça peut être une bonne porte d'entrée. Mmh, en vrai, même s'il y a eu Le Comte de Monte Cristo qui a cartonné, je pense que ça va être plus ça la porte d'entrée. Mais moi, j'ai grandi avec les Angélique, la saga Angélique avec Michel Mercier et Jean Rochefort qui est incroyable au niveau de l'écriture. Il y avait aussi les films avec Jean Marais et Gérard Philippe. Enfin, c'est mon
un jour, faut que tu m'expliques comment ça se fait que tu sois aussi jeune et aussi vieux à la fois.
Ouais, non, mais c'est mon grand mystère. Et mais en fait, pour moi, les films de KPDP en France, c'est les westerns américains. C'est-à-dire que c'est, ouais, ça, c'est notre truc à nous. On sait les faire. Et même Philibert, au niveau de la qualité des KPDP, ouais, il est un peu en deçà, mais il reste assez bon.
Tu parles des westerns italiens plutôt.
Oui, de Sironi en plus. De Sironi. C'est européen, du coup, les western spaghetti, c'est vrai.
Évidemment.
Galien, qu'est-ce que t'en penses?
J'ai l'impression qu'un peu tous les points de vue ont été. Enfin, tout ce que j'avais à dire a été un peu dit. Genre, je trouve les costumes magnifiques. Ouais. Je trouve les chorégraphies des bastons et tout, je trouve vraiment incroyable. Mais par contre, j'avoue que pour moi, il n'y a pas de doute sur le fait que c'est un film pas sérieux. En fait, pour moi, le côté aventure reste toujours un prétexte pour faire des blagues.
Je suis d'accord qu'il n'y a pas de doute, juste qu'il y a des moments où, en fait, tu ne sais plus si c'est... Enfin, j'étais un peu perdu dans le pastiche, plus dans ce sens-là. Mmh.
Mais
oui,
parce
y a
que
pas
le pastiche prend vraiment les codes du KPDP et les adapte bien.
Je ne les connaissais pas assez. Je pense que c'est mon problème. Je ne connaissais pas ces codes et c'est un univers que j'ai découvert. Mmh.
Parce que justement, tu vois bien qu'il y a des... Enfin, même moi, sans connaître, je vois bien qu'il y a des combats très chorégraphiés et tout. Et qu'à côté, tu vas voir cette scène là où ils tapent l'épée, tac, 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 et puis ils s'en vont. C'est ridicule, tu vois, genre c'est trop drôle. Et tu sens que ils ont quand même bossé des vrais chorés pour faire un truc crédible, quoi.
En fait, je pense que le truc, c'est que mon film de référence de pastiche de KPDP, c'est Sacré Robin des Bois de Mel Brooks.
Que je n'ai pas encore vu, mais il a l'air bien.
Qui est pour moi une légende incroyable. Et alors là, le pastiche, t'as aucune question.
C'est une parodie, c'est pas un pastiche, justement. Ouais. C'est à différence.
Alors là, c'est peut-être le problème que j'ai. Je ne vois pas la différence entre pastiche et une parodie.
C'est très subtil. Pour moi, la parodie. Alors si on doit parler, par exemple, film d'espionnage, tu l'as dit tout à l'heure, Eric. Austin Powers, pour moi, est une parodie.
J'ai jamais vu Austin Powers.
Et OSS 117 est un pastiche. C'est pour ça que moi, quand j'étais petit, d'ailleurs, j'avais pas trop aimé OSS 117. Je trouvais que c'était trop sérieux.
C'est trop sérieux.
C'est trop sérieux. C'est trop subtil. Et c'est quand t'es plus grand que tu comprends, ok, c'est vraiment le jeu d'acteur à la James Bond, où c'est un petit peu les clichés et tout ça, mais c'est les clichés subtils, c'est pas vraiment le gros grand tambour et tout ça, et pourtant Philibert n'arrive pas à être subtil, surtout au niveau des femmes.
Voilà. dans ce cas, je suis désolé, Sacré Robin des Bois, on pourrait le considérer comme un pastiche.
Non, c'est une parodie. C'est une parodie, c'est clairement une parodie.
Honnêtement,
quand tu vois par exemple, il tire une flèche et ça devient une flèche à tête chercheuse qui fait des virages, etc. Ça, c'est un truc.
Oui,
de
ok, j'entends. Ok, j'entends.
Genre vraiment, le pastiche, il vise à être premier degré un petit peu quand même. C'est justement pour créer cette confusion-là. Ouais.
Le mur entre les deux, pour moi, est trop subtil. Et du coup, ça me.
Ça l'est.
Dans celui-ci, justement, toutes les scènes où tu les vois en train de manger ce qu'ils appellent du groin, où ils mangent des
trucs, pour moi,
clairement, c'est fait pour ressembler à des faux accessoires avec de la viande en plastique. Et c'est volontaire, tu vois, au niveau des accessoires. Ouais, là, on brise un peu la frontière entre pastiche et la parodie.
Ouais, c'est ça qui est compliqué. Donc, ouais, c'est peut-être plus ça le truc, en fait, que je voulais dire par, je sais plus où est-ce qu'il se met entre, effectivement, c'est pas un film sérieux, mais en fait, j'arrive pas à comprendre dans quelle catégorie le poser, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe devant moi.
Mais c'est ça, en fait, si je comprends bien, pastiche, c'est vraiment, t'as un personnage qui est à l'ouest, dans un monde où tout est normal. Genre, OSS 117, qui est complètement teubé, alors que tout autour de lui, lui tend à lui prouver qu'il est con et malgré tout il évolue quand même sans obstacle, quoi.
Et en vrai, dans les comparaisons, en plus tu sens qu'il voulait jouer un peu sur la dualité, parce que le personnage de Jean Dujardin, il a une espèce de dualité, il est beau gosse comme un James Bond, mais il est con comme un balai. Et là, ce qu'ils ont voulu faire avec Philibert, c'est que il est pieux, il est aventurier, il a de nobles causes, mais c'est quoi son running gag, en fait, c'est qu'il est pas intéressé. En fait, il est puceau.
Non, mais Philibert, son running gag, c'est qu'il est premier degré, c'est tout, c'est que c'est un héron qui
Un héron petit patapon.
Non, c'est que c'est un héros qui a un but, c'est se venger, parce que généralement les mecs dans ce genre de film sont omnubilés par leur quête principale, et donc tout le reste n'a pas d'importance. Enfin, je pense que vous regardez beaucoup de films français, parce que vraiment c'est quand même.
Oui.
Ça dépend lesquels, il y en a plein différents, il y a plein de styles.
Parce que des parodies françaises vraiment claquées, Dieu sait que j'en ai vu. Ça, enfin, faut pas chercher midi à 14h, c'est vraiment juste un truc avec de l'humour de répétition, des plans trop longs exprès, une réalisation qui le laisse à désirer, je suis d'accord, et je pense que, ouais, sa carrière a pas décollé pour une raison à notre...
La seule audace, en fait, de réalisation, c'est qu'il a repris ce cliché, on en parlait au début, des accélérations de chevaux. Ça, c'était extrêmement répandu dans les années 40-50 pour donner cet effet de fausse vitesse. Ouais. Mais à part ça, la réelle, elle a pas trop de saveur. On dirait même à la fin un peu une réelle un peu téléfilm M6.
Oui.
Avec du budget, mais...
Et pour le coup, j'étais surprise de me rappeler de la durée du film qui dure à peu près... C'est quoi? C'est 1h35, 40.
1h40.
Le film me paraît beaucoup plus long que ça. Ouais.
Je pense que dans la réelle, il y a aussi le fait qu'ils ont voulu utiliser le même type de plan de caméra qu'à l'époque. Donc c'est pour ça que t'as zéro travelling, de trucs comme ça. C'était aussi pour... Et il y a des moments où clairement t'as des map painting, autrement dit t'as des fonds qui sont peints.
Ouais.
Et c'est un choix. Donc en fait, il y a aussi une volonté de bien faire les choses, mais il y a une sorte d'équilibre qui justement se trouve et fonctionne avec une qualité incroyable dans les deux premiers OSS 117.
Ouais.
Et là, il y a un numéro d'équilibriste qui fonctionne pas tout à fait bien et qui fait que... Franchement, on sent qu'ils ont tous essayé de faire un truc, ils se sont cassé le cul, et par rapport à plein de comédies françaises paresseuses, que ce soit des Daddy Boone ou tous les trucs avec, comment il s'appelle?
Didier Bourdon, là?
Ouais, ou Les Tuches, ou même, C'est OK, etc. Christian Clavier, il en a fait des dizaines, où c'est toujours le même personnage, c'est insupportable.
Oui, oui. Non, mais là, en plus.
Là, franchement, il y a plus d'ambition, enfin, je vois.
Il y a vraiment de l'ambition, c'est nous faire vivre une aventure. Et en France, ça fait quand même du bien d'avoir un film avec un gros budget qui a envie de te dépayser un petit peu, quoi.
Non, mais après, je comprends qu'effectivement, comme Greg, il y a des gens qui étaient confus par ce type d'humour-là, parce que oui, effectivement, c'est pas clair. Après, enfin, moi, pour le coup, je m'attendais à ce qu'autour de la table, ce soit plus ou moins unanime là-dessus. C'est vraiment le type d'humour à la Time Slips. Et, enfin, perso, en fait, j'ai, justement, les films de KPDP, j'en avais pas énormément vu. Enfin, bon, voilà, quelques-uns. Et en fait, c'est ce type de film-là qui a créé mon humour à l'heure actuelle. Donc, je ne peux que le défendre, parce que tout part de là, pour moi.
Mais c'est peut-être parce que on a ce genre d'humour parodique et trucs comme ça que, du coup, on n'est plus, du coup, on visualise et on analyse plus le truc.
Ouais,
parce que c'est un humour qu'on aime bien, qu'on a maîtrisé sur scène, etc. Enfin, maîtrisé.
Non.
En tout cas, du moins, on fait de notre mieux. Donc, quand on voit des choses de parodie, trucs comme ça, forcément, on a tout de suite, on a des réflexes. On est en mode, ils ont voulu faire ça, comme ci, comme ça. Moi, et parfois, ça marche, parfois, ça marche pas.
Moi, ce qui m'a choqué, en fait, c'est que ils sont pleins de bonnes intentions, mais je trouve qu'il manque un peu un vrai auteur derrière. C'est-à-dire que je sens un peu trop le côté mécanique de OSS 117, ça a marché. On va utiliser le même auteur.
Il a clairement surfé.
Et c'est le côté trop mécanique. Et voilà, s'il y avait eu un vrai auteur où c'était dès le début son projet, et qui voulait plus instiller sa patte, quitte à se distinguer plus d'OSS 117 avec un ton différent, je pense que ça aurait pu mieux marcher. Et là, c'est un peu ce qui a manqué dans celui-là.
Et en plus, ils essaient de forcer sur le côté Kaamelott, là. Enfin, je veux dire, on a quasiment jamais dit le nom Comte d'Artois. C'est vraiment...
Non, mais après...
On voit Astier, en fait.
C'est pas... Oui.
Mais ça, c'est pas grave.
Astier, on le voit toujours en tant qu'Astier, même dans Kaamelott. Personne le qualifie comme Arthur. Enfin...
C'est surtout que c'est en plus de Philibert à Kaamelott. Il joue le même personnage. Donc forcément ça grossit un peu le truc, mais pour le coup moi ça me dérangeait pas.
Pour moi c'était un best-of de All-Star française.
Alors All-Star française quand même de seconde zone, même si on a Astier.
Putain, pour l'époque c'était des acteurs très très connus pour l'époque, Cortés.
Ouais, c'est vrai qu'on avait Gaspard Proust.
Manu Payet, il avait fait pas mal de films sur le moment, pareil pour Régnier du coup qui sortait de Clo-Clo, allait le faire l'année d'après. Mais
le fait qu'Astier fasse du Astier, moi Bakri, il a fait du Bakri pendant toute sa carrière.
Bien sûr,
pas de problème.
On n'a pas dit que c'était un problème, juste que pour une fois en l'occurrence je trouvais que c'était vraiment bien calé et que ça correspondait bien au personnage. Parce que je trouve que c'est pas forcément le cas. Je pense par exemple à Pop Redemption, j'ai pas aimé le film, mais Astier n'a rien à foutre là-dedans, quoi. Vraiment, il est là, tu fais, mais pourquoi vous avez pris Astier pour faire ce rôle? Vraiment. C'est ça, c'est un problème de ton, peut-être un problème de motivation, en fait, tout simplement. Enfin, pas de motivation, mais quand je dis de motivation, pardon, pas de motivation, genre d'être motivé pour faire un truc, mais le but final.
Ouais.
Ou clairement, comme vous le dites, la motivation, c'est de faire un OSS 117, mais en KPDP. Parce que pour surfer sur le truc, et du coup, peut-être que ça manque un peu de profondeur sur la réflexion du projet.
C'est ce que disait Eric, ça manque d'art. Ouais. Un, et Dame peut-être.
Dame, mais pourtant, enfin, et pourtant il y a d'excellentes idées. Il y a la mise en scène, enfin. Ouais, les combats, ils sont. Alors, j'avoue que le dernier, je l'ai trouvé vraiment. Au bout d'un moment, j'étais bon, c'est long là quand même.
Ouais, et, bah, là, sont... c'est le côté où c'est long, ça te fait chier, puis après, ça devient tellement long que ça te refait rire, tu vois. C'est un peu ce. Ça,
c'est non,
un...
Moi, ça, c'est pas revenu à ce point-là.
Ouais. Ça, ce genre d'humour, c'est un pari, ça marche selon les personnes.
Ah non, moi, c'est juste trouvé ça long. Bon, il y a quelques moments où j'ai fait, franchement, quand ils éteignent les lumières au fur et à mesure. Bon, tu vois très bien qu'ils ont été à un spot, hein, mais vas-y, c'est drôle.
Et même si on est très regardant sur le côté pastiche ou. On est là, n'empêche, le film reste quand même bien marrant.
Ouais, non, oui, voilà, je voulais vous dire, est-ce que, franchement, non, le film, c'est un film où tu te marres forcément devant, à un moment, t'as forcément une scène qui te fait rire.
Non, les costumes, les robes, c'est trop cool.
Ouais. Tu te marres forcément, mais c'est vrai qu'il y a un truc, enfin, j'ai repensé, on parlait tout à l'heure de certains trucs des groins qui faisaient un peu parodie, les meufs qui se déshabillent en deux-deux devant pour moi, c'était un peu too much dans la parodie. Je sais que dans les films de KPDP, tout le monde veut se taper le personnage principal.
Bah, là, mais c'est ce qui se passe, tous les trucs un peu médiévaux, les Game of Thrones, les machins, t'as des meufs à poil tout le temps, il y a trois meufs.
Elles sont beaucoup, non, mais moi, elles sont beaucoup plus travaillées. C'est-à-dire que même parfois,
c'est fait de façon beauf, ouais.
Alors, c'est un truc que,
moi, ça me gêne moins.
Jamais ça serait fait de façon aussi grossière.
Et perso, moi, déjà, même dans Game of Thrones, ça me faisait chier qu'il y a tout le temps des gens à poil, perso. Enfin, je l'ai toujours dit, le cul dans Game of Thrones abusé, ça m'a toujours fait chier, alors que j'adore le medieval fantasy.
Et là, pour rebondir en citant la saga Angélique, le personnage d'Angélique couche tout le temps, sauf que quand elle couche, c'est par stratégie pour manipuler et pour arriver à ses fins. Donc en fait, le sexe, mais surtout qu'en 64 en plus le film, donc oulala, mais la sensualité, la sexualité a un but et c'est un pouvoir. Là, pour le coup, c'est juste une blague.
Là, c'est l'esprit Groland.
C'est très Groland.
Ouais.
Et bon, on n'aime pas. Moi, ça m'a fait marrer une fois, très vite fait.
Ouais, mais c'est cinq fois, c'est ça le problème.
Ouais, c'est cinq fois.
Eric l'a très bien dit, Groland, ça dépend. Souvent, c'est très bien quand c'est très court. Sur une heure et demie, ça fait trop.
Non, voilà, c'est ça. C'est que je pense qu'il y a pas mal de petites scénettes qui auraient pu servir comme une sorte de presque série YouTube.
D'ailleurs, on pourra noter.
Il y a un humour très YouTube.
Ouais, alors très YouTube des années 2010.
Bah, aujourd'hui,
c'est un film de 2010 et je trouve que ça se voit marque très très bien l'humour de l'époque. Et
honnêtement, niveau prod et niveau réel, on se rapproche un petit peu des Joueurs du Grenier quand ils font ils font les passages un peu court-métrage ou fiction. Hein.
Et d'ailleurs, rapidement, on parlait des gens à poil. On peut arriver donc au compteur final qu'il y a 4 meufs qui veulent se faire Philibert et 3 qui sont à poil. Sur une heure et demie de film, ça fait une meuf à poil par demi-heure, c'est beaucoup.
Et qui est en plus quand même un film grand public. Enfin.
Manon l'a vu à 8 ans.
Honnêtement, à part ce truc-là, le film est grand public.
Alors, je crois que le film est déconseillé au moins de 12 ans. Et si on se base.
12 10.
Je crois que le film est déconseillé au moins de 12 ans.
Non, 10.
En France, on voit Danny Barr, 12 ans.
10.
12 ans. 10. Tu veux parier?
Ok, bon, écoutons.
On fera le pari en.
Tu porteras des collants.
Allez. Mais surtout, si on se base sur ce que j'ai regardé à 8 ans, tu n'es pas sorti de l'eau.
Non, mais je veux pas savoir, Manon. Je ne veux vraiment pas savoir.
Espèce de détraqué.
Ouais, je pense qu'on va prendre ça au fur et à mesure des.
Ah, l'évolution du perso.
Déjà, Eric, il est encore choqué de l'épisode sur Ludita. Donc...
Ouais. C'est vrai que c'est vrai que t'étais là, lui.
Incroyable.
Est-ce que c'est à peu près bon pour vous?
Ouais, je pense qu'on peut faire le vote.
Gaïen, c'est un truc à rajouter, on t'a peu entendu.
Bah non, juste ça fait un film. Enfin, c'est une blague d'1h40, du coup c'est un peu long à regarder seul. Après, avec des potes, c'est quand même un truc très très marrant, genre en se marrant bien tous ensemble quoi.
Et en mangeant des sandwichs, oui, en lisant des bouquins.
Pizza Beubière. c'est le film Pizza Beubière.
C'est le film pour Pizza Beubière.
Et maintenant, comme à chaque épisode, on va décider de si on sauve le film ou non, et on va faire un petit tour de table en commençant par Eric.
Oui, je le sauve parce que quand même, c'est un film plein de bonnes intentions. Ouais.
C'est le premier film le qui premier sauve film de l'émission.
Là. Cortès, est-ce que tu sauves le film?
Je sauve totalement le film, malgré ses petits problèmes. Il a du cœur à l'ouvrage. Il y a vraiment une volonté de bien faire et globalement, ça marche.
Moi, je pense que je le sauve parce que tout est beau dans le film. Enfin, les décors et tout. C'est mon humour. Vraiment, c'est trop mon humour. Donc ça m'éclate de rire à chaque fois. Mais je comprends que ce soit pas l'humour de tout le monde. Mais voilà, moi, il me correspond parfaitement. Donc clairement, je le sauve. 100%.
Manon, est-ce que tu le sauves? Je pense connaître la réponse.
Alors, sans surprise, je sauve le film. Oui, bah voilà, c'est mon bébé.
Mais écoute, alors, du coup, moi, en vrai, je me suis bien marré. Il y a vraiment des trucs, putain. Oh putain. Du coup, je ne le sauverai pas pour la forme, pour dire qu'on n'a pas fait un parfait, parce qu'il ne mérite pas un parfait. Oh. Il est drôle, mais il y a des trucs qui, genre, vraiment, je fais.
De tous les films qu'on a fait depuis le début, je pense que c'est peut-être celui qui mériterait le plus un parfait.
Ouais. Oui.
et de loin comparé aux autres.
Bah encore une fois, il est drôle, mais il y a vraiment des trucs où j'étais en... non, ça passe pas.
Non, bah
et
c'est...
je pense que
toi t'as un cringeomètre mais tellement à zéro, c'est
alors,
un truc de fou.
Sachez que je n'ai jamais fini le premier épisode de The Office.
Pour la première saison, c'est pas la
fin. Oui, la première saison, ça a pas duré.
Et tout repose sur le cringe.
Oui, enfin, c'est ça. Ouais. Voilà, sur la donc, première saison, ouais.
C'est ça. Et moi, le cringe, effectivement, ça dégage. Hein. Vraiment, ciao. Je ne peux ne pas finir un truc de 5 minutes si au bout d'une minute il y a du cringe. Aucun problème là-dessus. Okay. Donc voilà.
Mais ben du coup, ça fait 4 contre 1, ce qui veut dire que Philibert mérite au final notre love et on le réanime. Et dans ce podcast, on va terminer par deux recommandations. En premier lieu, Eric, quelle est ta première recommandation ?
Alors, ma première recommandation, c'est un film qui s'appelle le Rocky Horror Picture Show.
QA ?
Mais QA !
Qu'est-ce que c'est ?
QA ! Alors, si c'est votre premier épisode, sachez que le running gag, c'est qu'à chaque fois, on recommande le film pour lequel on fait l'animation.
Fallait pas que t'expliques !
Ah, mais si, j'explique quand même.
On est bienveillants.
Eric n'aime pas le running gag.
Donc, pourquoi ? Parce que nous faisons partie d'une troupe qui s'appelle les Time Sleeps, et cette troupe se retrouve tous les samedis soirs dans un petit cinéma de Paris qui s'appelle le studio Galande, afin de faire des animations autour d'un film. Ce film, c'est donc le Rocky Horror Picture Show, qui est une comédie musicale des années 70. Et donc, en même temps que le film est projeté dans la salle, nous faisons une animation, c'est-à-dire qu'on détourne ce qui se passe à l'écran, on monte sur scène, on joue avec les sous-titres, on fait interagir le public, on s'amuse beaucoup, c'est très cool. Regardez le film avant de venir nous voir, ou venez découvrir directement le film et l'animation en même temps. C'est donc tous les samedis soirs avec notre troupe, mais également tous les vendredis soirs au même endroit, le studio Galande avec une autre troupe qui est également très cool, qui s'appelle les Panic Babies. Et donc c'est notre première recommandation.
Et pour la seconde recommandation, Cortel, je crois que t'as un autre film à faire démolir la prochaine fois.
Effectivement, c'est aussi une comédie musicale avec plein d'animaux très mal faits. Et on essaie de raconter une histoire avec ça. Alors déjà que le matériel de base est compliqué, c'est même une blague dans le domaine de la comédie musicale. Là, j'ai très très hâte qu'on en parle dans ce podcast. Je pense que ça va faire mal aux yeux et aux oreilles.
Eh ben écoute, c'est super, on va essayer de retrouver de quoi tu parles et on en parlera au prochain épisode.
Un podcast qui fait mal aux yeux.
Ça te trigger ça, vraiment.
Oui, ça me fait beaucoup rire.
Qu'on puisse regarder des podcasts.
Oui, j'adore ça.
Bon bah merci à tous, si l'épisode vous a plu, un petit like sur votre plateforme d'écoute, un petit commentaire et tout ça nous fait toujours plaisir. Et sinon, on vous fait des gros bisous.
Gros bisous, au revoir tout le monde.
Bisous.
Oui, bisous, des gros bisous, bisous,
de gros bisous.
Des gros bisous. Oh putain, oui.
Et vous pensez que c'était fini ? Et en fait, non, on va faire un petit truc bonus, évidemment. Alors le but, ça va être de faire un tour de table avec l'idée que vous allez balancer chacun d'entre vous des insultes, mais plutôt version Moyen-Âge, parce que c'est pas drôle sinon. Et les deux premiers à sécher et à ne pas trouver d'insultes doivent chanter la chanson de Satavoise en entier, bien sûr.
Alors qui commence ?
Comme vous voulez.
Allez, je me lance. Mécréant.
Margoulin.
Gougnafier. je sais pas, c'est pas Bachibouzouk, je l'aime beaucoup, mais c'est pas assez
non,
médiéval.
C'est Capitaine Haddock.
Ouais, mais c'est des vieilles expressions qui se prend là-bas.
Ça passe, moi je donne le.
Ok, d'accord.
Allez, ça passe.
Gredin.
Canaille.
Félon.
Drôle.
Félon. Merde, j'en avais un, je l'ai perdu. Oh non, putain, déconne pas.
Ça fait deux fois que tu gracques.
Ouais, bah écoute, merde, vas-y. Bon, putain, j'ai pas chanté.
Arrête. Allez, Greg est mort, il nous. Allez. Bon bah méchant.
Cuistre.
Merde, en fait je savais pas que ça continuait.
De toute façon toi tu voulais chanter donc.
C'est pas faux. Allez Cortès.
Non, c'est pas,
c'est
une,
pas
insulte.
Une insulte ça Cortès. Enfin quoi que.
Cortès.
Quoi que.
Non, bien joué, tu passes.
Bah non, j'ai pas.
Bon bah vous allez terminer l'épisode avec Grégoire.
Non.
Et... Cortez qui vous chante non. Une superbe chanson. Non.
J'en avais noté plein. J'en fous. Ouais. Balotru,
Sapajou. Non, mais t'en avais noté.
Eric, ben il a triché.
Non, mais attends.
Attends, c'est de la triche.
C'est triche.
C'est triché. Ouais,
c'est triché, hein.
Bah, t'avais dit au début, donc moi, j'ai réfléchi. On a droit de réfléchir.
Alors, je laisse ma place à Eric, qui a donc triché.
Allez, c'est chaud. Et Cortez ont donc chanté.
Merci beaucoup, Eric.
Mais parce que il fallait pas noter.
Mais non, mais fallait pas noter. On a tous dit qu'il fallait pas noter.
On a le droit de s'entraîner ou pas avant?
Non, direct là. First try direct.
Ok.
One shot.
Non,
on fait que les deux.
Oui, non, je sais.
Je suis puni parce que j'ai révélé que t'avais vendu la mèche.
Ouais.
Mais au final, donc le problème, c'est que t'as vendu la mèche. Je pense que j'ai vendu la mèche.
Je pense que t'as vendu la mèche. Tu dans la cave ici, tu crois que je
Allez, vous êtes prêts?
On est parti.
Allez, on chante tous, ça sent.
Attention, c'est parti.
Santa Boise part très loin se venger. L'assassin de son père, il s'en va pour chasser. Immense est son courage, grandeur est sa cause. Trippé le vilain, bourguignon à la rose. Oyé, oyé. D'un breton courteau, il a fait son balai.
Sans peur,
il perd son fidèle de destiné. Il délivre une belle des griffes de malandrin. Et vie d'amour et de fougue et de salade de groin. Oyé, oyé.
C'est une fin d'enregistrement.